Atlantique Caution de Atlantique Assurance, la garantie financière pour les marchés publics et privés, vous propose appel sur l'actualité.
Atlantique Assurance, en toute confiance.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
8h10 en temps universel, 10h10 ici à Paris. Merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, vos réactions sur le dialogue national qui s'ouvre ce mercredi au Sénégal dans un contexte, vous le savez, particulièrement tendu. Deux sujets cristallisent les tensions, l'éventuelle candidature à un troisième mandat du président Macky Sall et le délibéré attendu demain dans le procès d'Ousmane Sonko pour des accusations de viol. L'opposant risque l'inéligibilité pour la présidentielle de février prochain. Alors ce dialogue va-t-il permettre d'apaiser le climat politique, d'autant que la plupart des responsables de l'opposition ont décidé de boycotter les discussions. Vous nous appelez, vous vous exprimez sur RFI ce matin, on en parle donc dans une trentaine de minutes, 33 9 693 693 70, et comme tous les jours, vos commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, même Instagram. N'hésitez pas, je citerai quelques-uns de vos commentaires sur l'antenne de RFI. On va commencer d'abord avec vos questions. À la rédaction, on va parler football. Obed, bonjour.
Bonjour Juan, et bonjour tous les auditeurs de RFI.
À Abidjan, en Côte d'Ivoire, des questions sur le prix RFI France 24. Marc-Vivien Foé attribué hier à Chancel Bemba.
Exactement. Alors, mes questions sont les suivantes. Alors, Chancel Bemba, défenseur congolais, qui est en baisse de régime ces dernières semaines, s'est vu attribuer hier le prix Marc-Vivien Foé. Donc, pourquoi le choix de Chancel Bemba? Et à l'opposé, est-ce que Seko Fofana ne méritait-il pas de conserver son titre au vu de ses performances ces dernières semaines?
Obed, je sens comme une pointe de déception. Hein, votre compatriote Seko Fofana, effectivement, a recueilli 11 points de moins que Chancel Bemba. Olivier Pro, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Bonjour Obed. Il ne faut pas être mauvais perdant, Obed. Ça arrive.
Journaliste.
Chacun son tour.
Je rappelle que vous êtes journaliste au service des sports de RFI. Olivier Pro, il faut déjà signaler... C'est important, ce n'est pas RFI qui choisit, c'est un jury.
C'est un jury, oui, 83-85, une petite centaine de votants, on en a parlé la semaine dernière. Bien sûr, les journalistes du service des sports, on a tous voté Chancel Bemba, Obed, hein. tous.
Non, bien vous sûr plaisantez.
Que non. Bien sûr que non. Les consultants de Radio Foot, ouais. D'anciens joueurs, évidemment, Eric Rabessandratana, Habib Bey, Joseph Antoine Bell. Voilà, c'est un jury qui vote en son âme et conscience. Les votes ont été arrêtés à deux journées à peu près de la fin, vers le 8-9 mai, deux, trois journées avant la fin de la saison, donc c'est quand même relativement tard, ça permet de bien juger, et voilà, ça s'est joué, vous l'avez dit, à très peu de choses. C'est la première fois que c'est aussi serré, 207 points pour Chancel Mbemba, 196 pour Seko Fofana, le troisième Terem Moffi est à 120 points, le quatrième Habib Diallo 60, donc il y a vraiment un gros écart entre les deux premiers. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche, et quand Obed parle d'une baisse de régime de Chancel Mbemba, s'il est honnête, il dira que Seko Fofana a été quand même nettement moins rayonnant tout au long de la saison qu'il ne l'avait été l'année dernière lorsqu'il a remporté ce prix. C'est vrai qu'il est décisif dans le money time, Seko Fofana, que l'on salue, évidemment, décisif au moment où la saison se conclut pour emmener Lens presque à lui tout seul. J'exagère, mais en tout cas, il a marqué des buts très importants ces dernières semaines. Donc ça se voit, ça s'est même vu au moment du vote. On a bien vu qu'il remontait, mais Chancel Mbemba, même s'il est moins bon depuis fin mars, moins performant, il a marqué 5 buts cette saison. Il est le patron de la défense de l'OM qui va terminer troisième du championnat. Il est arrivé un peu en catimini. Il a eu 6 mois plutôt de très, très, très haute tenue. Et c'est ce qui a sans doute fait la différence. Ils ont eu des courbes inversées. Hein. L'un a brillé puis est un peu descendu. L'autre a été plutôt discret, Seko Fofana. Et puis, il a bien terminé, mais ça n'a pas suffi.
Et le prix Marc-Vivien Foé sera finalement le seul titre pour l'Olympique de Marseille cette saison.
Oui, on espère pour eux qu'ils seront en Ligue des Champions. On rappelle que les deux hommes sont dans le 11 type de l'UNFP, hein, on ne s'est pas trompé, l'Union des footballeurs professionnels, les deux en font partie, donc voilà. Après, encore une fois, c'est un prix individuel dans un sport collectif, chacun vote en son âme et conscience, et il y a eu des votes parfois un petit peu bizarres où aucun de ces deux hommes n'apparaissait, c'est ainsi.
Obed, avez-vous été convaincu par les explications d'Olivier Pron?
Oui, c'est plutôt convaincant et on se donne rendez-vous au prix de l'année prochaine.
Bien sûr.
Rendez-vous. Merci de votre fidélité. Bonne journée à Abidjan. Et on salue tous ceux qui nous écoutent sur les 97.6. À bientôt, Olivier Pron.
À très bientôt, j'espère.
Peut-être demain dans la matinale de RFI.
Si vous m'invitez.
La
matinale, j'y serai. Chez vous,
y serez, on verra. Voilà. Donc à demain matin, quoi qu'il en soit, sur l'antenne de RFI. 10h15 à Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Christophe, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour, Juan.
À Lomé.
Bonjour à tous les auditeurs, à tous les auditeurs de RFI.
Merci de nous appeler du Togo. Vous avez des questions sur la guerre en Ukraine.
Oui. La semaine dernière en Russie, la région de Belgorod a été attaquée par deux groupes russes qui ont revendiqué se battre contre leur propre pays. C'est à combien sont-ils estimés? Et le Kremlin avait-il connaissance de ces groupes?
Ouais, ce sont deux groupes armés, effectivement, qui sont venus d'Ukraine, qui ont donc passé la frontière, et ils ont mené une incursion dans la région russe de Belgorod. C'est la plus importante offensive en territoire russe depuis le début de la guerre. Bonjour Adrien Nonjon.
Bonjour.
Vous êtes doctorant à l'INALCO, spécialiste de l'extrême droite post-soviétique. D'abord, avant de répondre précisément à la question de Christophe sur le nombre de combattants estimés, présentez-nous tout de même ces deux groupes qui ont revendiqué l'attaque de la semaine dernière.
Oui, alors en fait, nous avons affaire ici à deux groupes qui ont pour point commun, deux points communs, j'ai envie de dire. Le premier étant le fait qu'ils soient majoritairement composés de Russes, et le deuxième, que ça soit donc deux unités combattantes qui combattent aux côtés des Ukrainiens, donc l'armée russe. Et comme vous l'avez mentionné, donc la semaine dernière, on fait une percée, une incursion, pour être plus précis, dans la région limitrophe donc de Belgorod, qui se situe en plein cœur du territoire de la Fédération de Russie.
Mais quel est le profil de ces combattants russes partant d'Ukraine ?
Alors, en fait, ici, on a affaire à deux types de groupes. Nous avons le premier qui s'appelle la Légion de Russie Liberté, qui est donc un groupe composé à peu près, selon les sources, environ 1000-2000 combattants, qui donc sont surtout présentés comme étant d'anciens prisonniers de guerre russes qui ont été capturés dès les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine en février 2022 et qui, au cours de leur captivité, auraient pris conscience, en fait, de la gravité de leurs actes, de leurs erreurs, et donc auraient décidé justement de retourner leur veste pour combattre aux côtés des Ukrainiens. Donc eux, ils défendent, on va dire, un projet d'inspiration démocratique, social-démocrate, avec cette volonté en fait de destituer Vladimir Poutine du pouvoir et de rétablir en fait un système entièrement démocrate en Russie. De l'autre côté, vous êtes donc dans le deuxième groupe qui s'appelle donc la
Le corps des volontaires russes.
Voilà, le corps des volontaires russes. Ici, en fait, on a affaire surtout à une centaine à peu près de combattants qui sont en fait originaires, eux, des franges, on va dire, radicales du nationalisme russe et qui avaient en fait trouvé refuge en Ukraine bien avant en fait le déclenchement de l'invasion, même aussi bien avant en fait le début de la guerre dans le Donbass en 2014 et qui en fait, au lendemain donc de cette invasion de février 2022, ont décidé de se constituer en bataillon de volontaires.
D'accord. Le Kremlin avait-il connaissance de l'existence de ces deux groupes ?
Il y a de très fortes chances. En tout cas, les services de renseignement russes, même avant que ces derniers soient vraiment véritablement déployés sur la ligne de front, étaient quand même déjà présents en Ukraine avec des agents. Il faut pas se voiler la face. Le Kremlin a toujours maintenu une présence par le renseignement en Ukraine. Et donc, ces groupes qui déjà, notamment pour le corps des volontaires russes, faisaient déjà l'objet d'une surveillance étroite de leur part, sachant qu'il s'agissait en fait à la base de nationalistes russes qui ont été obligés de fuir la Russie à cause des persécutions qu'ils pouvaient subir de la part du pouvoir.
Allez, restez avec nous, Adrien Nonjon. Christophe a une dernière question à vous poser. Ah, et on entend un bébé crier ou pleurer au loin.
Oui. J'aimerais savoir maintenant, ces groupes peuvent-ils continuer leur action sur le territoire russe ?
Adrien Nonjon, quelle est votre analyse ?
Alors, aux dernières nouvelles, donc cette incursion s'est terminée la semaine dernière. Le ministère de la Défense russe a annoncé avoir repoussé donc les assaillants, faisant à peu près 70 morts parmi eux. Côté russe, on compte 8 morts. Néanmoins, même si aujourd'hui la présence, en tout cas de ces combattants, n'est plus avérée, il s'agit quand même non pas forcément d'une victoire stratégique, compromis tactique de la part de l'Ukraine, mais il s'agissait surtout en fait d'une opération plutôt symbolique à titre de communication.
Symbolique certes, mais la Russie, en tout cas les soldats russes à la frontière, n'ont pas réussi à empêcher cette incursion. Donc ça en dit long quand même sur le niveau, en tout cas l'état de la défense russe.
Absolument, absolument. Aujourd'hui, le gros des forces déployées par le Kremlin se situe en fait sur une ligne qui s'étend sur quasiment l'entièreté de la région du Donbass. Donc, bien sûr, on peut interpréter ça aussi comme un moyen pour les Ukrainiens, en tout cas, de vérifier dans quelle mesure, en tout cas, les défenses même du territoire russe sont-elles efficaces ou non. Donc là, ça va sûrement imposer à l'état-major russe de redéployer, en tout cas, de dégarnir certaines de ces forces qui sont présentes dans le Donbass pour pouvoir assurer la sécurité du territoire même de la Russie.
À suivre donc. Christophe, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait? Ah, Christophe, on entend le bébé au loin. Je pense que Christophe a dû poser le téléphone, écouter la radio et il n'entend plus le bébé, enfin à cause du bébé. Bonne journée en tout cas à lui et merci à Adrien Donjon, doctorant à l'INALCO, spécialiste de l'extrême droite post-soviétique. 33 9 693 693 70. N'oubliez pas dans 20 minutes maintenant vos réactions, vos analyses sur la situation politique et sociale au Sénégal avec en toile de fond, bien évidemment, le dialogue national. Coup d'envoi cet après-midi, 16h. Heure locale au palais présidentiel. Il y aura du monde, certes, mais il y aura surtout beaucoup d'absents, et notamment quelques-uns des principaux ténors de l'opposition sénégalaise. Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Bonjour Pierrick Bonneau.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. Merci d'avoir quitté la conférence de rédaction pour venir répondre à Shinka. Vous êtes journaliste au service France de RFI et Shinka, lui, suit de près.
Service politique même.
Service politique de RFI, autant pour moi. Et justement, j'allais dire, Shinka s'intéresse de près à la vie politique française et il a des questions sur la future loi immigration. Bonjour Shinka.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
Soyez le bienvenu. Nous vous écoutons avec Pierrick Bonneau.
Oui, j'ai entendu que le gouvernement a son projet de loi d'immigration. Les républicains vont déposer leur propre texte. Alors, Juan, j'aimerais comprendre quelle est la différence entre les deux.
Alors, les républicains qui déposent leur propre proposition de loi, le gouvernement qui présentera, on va dire officiellement, son propre texte fin juin, début juillet.
Voire à l'automne, on ne sait pas trop.
Voire à l'automne. Donc c'est un peu compliqué de répondre précisément à la question de Shinka.
C'est pas si simple que ça, hein, parce qu'effectivement, le projet de loi du gouvernement, il est toujours en discussion. Il avait été présenté en Conseil des ministres au début de l'année. Puis vu le chaos qui a été provoqué par la réforme des retraites, eh bien, le gouvernement a décidé de reporter, de repousser ce texte. Donc le gouvernement a tout remis sur la table en fait, hein, mais il y a un principe auquel tient Emmanuel Macron, le chantre du « en même temps », c'est l'équilibre hein, de ce texte. Que la gauche y trouve son compte, notamment avec la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, hein, le bâtiment, l'artisanat, la restauration notamment, et que la droite aussi soutienne le projet, le gouvernement veut notamment expulser les sans-papiers. Quant aux propositions des LR Rouen, la grosse proposition dite constitutionnelle, c'est en gros de faire prévaloir le droit français sur le droit européen en matière d'immigration. En gros, permettre à la France de redevenir maître de ses frontières. On y trouve également dans ces propositions des LR la possibilité de recourir au référendum, de demander en gros directement aux Français ce qu'ils en pensent de l'immigration et puis de légiférer en conséquence. Également dans les textes déposés par les LR, parce qu'il y en a deux, hein, une réforme de ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, ce qui permet aux étrangers de se faire soigner gratuitement en France. Les LR veulent la transformer en aide médicale d'urgence. Ils veulent également supprimer la plupart des aides sociales pour les étrangers en situation régulière, réformer le droit d'asile. Objectif, eh bien, réduire drastiquement le nombre d'étrangers qui entrent chaque année sur le territoire.
Donc les LR veulent fermer les vannes.
Oui, très clairement. Et Éric Ciotti, le patron des LR, emploie même les mêmes mots que Marine Le Pen, voire d'Éric Zemmour, quand il dit notamment qu'il faut stopper les pompes aspirantes, hein, les incitations à venir s'installer en France pour les étrangers. Ce vocabulaire est emprunté à l'extrême droite. Ou quand les LR veulent encore se passer des règles européennes. Marine Le Pen, elle aussi, a proposé ça à un moment avec son fameux Frexit, hein, de se passer des règles européennes. Et puis, il manque surtout au projet des LR ce qu'on appelle la jambe gauche, hein, les mesures moins répressives, la régularisation des sans-papiers, notamment des travailleurs sans-papiers absents du texte de la droite.
Voilà pour les différences entre les deux projets. Shinka, une dernière question.
Oui, c'est un compromis. Peut-il être trouvé entre la majorité et les partis de droite ?
À vous entendre, Pierrick Bonneau, on n'y est pas.
Hein. Non, c'est fortement improbable à ce stade. La gauche de la majorité et LR ont chacun fixé leur propre ligne rouge. Chacun veut repartir de son propre texte pour négocier. Chacun a besoin de l'autre pour atteindre la majorité. La gauche, dans tout ça, elle est absente pour l'instant. Ouais. Et on l'a bien compris, il est très fortement improbable que ce texte trouve une majorité et un accord entre la droite et la majorité.
Eh bien, on suivra tout ça avec vous, Pierrick Bonneau, et l'ensemble du service politique de RFI. Chinka, très bonne journée à Tillabéri, au Niger. Et on va terminer cette première partie avec Messi Fidèle. Il est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Bonjour Messi Fidèle.
Juan Gomez, bonjour.
Comment allez-vous ?
Je me sens très bien, et vous alors ?
Moi, je me sens aussi très très bien. Vous avez des questions sur la Turquie, après la réélection de Recep Tayyip Erdogan ?
C'est l'actualité, en fait.
Oui.
Recep Tayyip Erdogan a été réélu une troisième fois président de la Turquie. À ce propos, Juan, je voudrais savoir quels sont les grands chantiers qui attendent Erdogan pour les cinq prochaines années.
Ouais. C'est une bonne question. Erdogan, certes réélu pour un troisième mandat avec 52% des voix, mais n'oublions pas que les Turcs ont également choisi leurs députés. Et le président Erdogan peut aujourd'hui compter sur une majorité absolue de 321 députés sur les 600 que compte la Grande Assemblée nationale. Bonjour Max Valentin Robert.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université de Nottingham, au Royaume-Uni, spécialiste de la Turquie. Aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan a toutes les cartes en main. Il est président, il a le Parlement à ses côtés. Quels sont ses grands chantiers ?
Alors, pour répondre aux questions de votre auditeur, je pense que Recep Tayyip Erdogan a plusieurs chantiers, aussi bien de politique intérieure stricto sensu que de politique extérieure. Alors au niveau de la politique intérieure, bien évidemment, il va devoir continuer la gestion des conséquences humanitaires du séisme qui sont encore loin d'être résolues à l'heure actuelle. Par ailleurs, Recep Tayyip Erdogan va devoir être confronté à la gestion de la crise économique en Turquie. Comme vous le savez, la valeur de la livre turque ne cesse de se dégrader et donc le gouvernement turc et Recep Tayyip Erdogan vont devoir encore plus gérer les conséquences de cette crise économique. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que non seulement les élections présidentielles avaient lieu, mais également les élections législatives. Oui. Alors, même si Recep Tayyip Erdogan bénéficie d'une majorité absolue, il va devoir aussi gérer une majorité assez hétéroclite. C'est-à-dire que la coalition est assez hétéroclite. Il y a des partis de diverses tendances qui parfois peuvent avoir des désaccords idéologiques entre eux. Et on va se demander, et là aussi ça peut être un autre dossier à gérer pour le président turc, c'est comment réussir à gérer une coalition qui parfois peut renfermer des antagonismes ou du moins des divergences idéologiques en son sein.
D'accord. Alors, on comprend bien les trois enjeux et les trois principaux chantiers en matière de politique intérieure. S'agissant de la politique étrangère, on a vu le nombre de réactions de félicitations suite à sa réélection. C'est dire donc le rôle important de la Turquie sur la scène internationale. À quoi peut-on s'attendre ?
Alors moi, personnellement, à mon avis, on peut s'attendre à des tentatives de maintien de la politique menée jusqu'à présent. Par exemple, l'un des dossiers chauds actuellement qui est au cœur de l'actualité internationale, c'est la question du conflit russo-ukrainien. Recep Tayyip Erdogan va être confronté au défi à la fois de rester fidèle à ses engagements dans le cadre de l'Alliance Atlantique, mais en même temps de ne pas froisser son partenaire russe vis-à-vis duquel la Turquie est impliquée dans des projets de partenariat économique, mais également énergétique, dans le secteur du nucléaire notamment.
Oui.
Par ailleurs, vous avez mentionné tout à l'heure les félicitations qu'a reçues Recep Tayyip Erdogan de la part des dirigeants européens. La question des relations turco-européennes va être au cœur du prochain mandat d'Erdogan. La question des relations futures avec l'UE et avec les décideurs européens. Il y a également la zone moyenne-orientale vis-à-vis duquel Recep Tayyip Erdogan est confronté à de nombreux défis. On peut mentionner la question du nord de la Syrie, où l'armée turque est actuellement présente, mais également la problématique du Haut-Karabakh, où, comme vous le savez, la Turquie est partie prenante via son soutien à l'Azerbaïdjan.
Et en vous écoutant, on comprend bien le poids de la Turquie dans la géopolitique régionale. Merci infiniment, Max, Valentin, Robert, d'avoir été avec nous. Je sais que la question était très vaste. La réponse était concise, pédagogue. Je pense que tout le monde a compris. Bonne journée à tous les deux, Messi Fidèle et Max